pour en parler et faire le lien, bien sûr, avec cette lettre aux Français du président de la République sur ce plateau. Je salue Christophe Barbier, éditorialiste politique BFM TV. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Benjamin.
Antoine Jardin, politologue, spécialiste notamment de l'extrême droite et des populismes. Et je salue Charles Consigny,
bonsoir.
Avocat. Bonsoir à tous. Première question avec vous, Christophe. Je vais prendre une phrase de la lettre du président de la République. Si l'extrême droite est arrivée en tête au premier tour avec près de 11 millions de voix, vous avez clairement, vous, aux Français, dit-il, avez clairement refusé qu'elle accède au gouvernement. Et c'est vrai, au fond, ce qui est frappant, on voit ces images. En fait, dans cette séquence, le RN joue les seconds rôles.
Il joue les seconds rôles ou les Césars du meilleur espoir. Parce que quand même, cette défaite du deuxième tour, elle est appuyée sur une percée du premier tour qui succédait à un succès des européennes. Ça arrange le RN de ne pas être au pouvoir. Regardez, la confusion a constitué une majorité. Il n'aurait pas eu la majorité absolue, il serait dans la mélasse. Regardez la difficulté qui attend les gouvernants, quels qu'ils soient, pour faire le budget à la fin de l'année, pour résoudre les problèmes de la France, pour répondre aux attentes des Français. Le programme en matière de pouvoir d'achat du RN, il est tout aussi difficile à appliquer et à rendre réel que celui du Front populaire. Par ailleurs, en jeu interne, l'idée d'avoir une expérience de pouvoir sans Marine Le Pen avant la présidentielle 2027, ça n'arrangeait ni Marine Le Pen, ni forcément Jordan Bardella, qui aurait probablement eu à gérer des déceptions et un échec. Donc finalement, cette défaite qu'ils peuvent mettre sur le dos d'une forfaiture démocratique, de ce front républicain contre nature, je pense que ça les arrange. Maintenant, attention, vous avez vu, ils sont nombreux, hein. Tenir 89 personnes pour éviter les dérapages, en deux années, ça a été à peu près tenu. En ayant 40 de plus, c'est différent. Il va falloir être d'une discipline de fer, surtout que l'Assemblée, le chaudron de l'hémicycle, va être le lieu de toutes les provocations et de tous les échauffements.
Et on reviendra dans un instant sur certains des profils que l'on voit, puisque parmi ce que Jordan Bardella a appelé les brebis galeuses, plutôt un troupeau, hein, vu leur nombre, certains ont repris le chemin de l'Assemblée et ont fait cette photo. Antoine Jardin, sur ce que vient de dire Christophe Barbier, c'est quoi? Est-ce que c'est les seconds rôles ou est-ce que c'est... Au fond, comme vient de le dire Christophe, plus facile pour eux d'être comme cela, de continuer à pratiquer ce que Marine Le Pen appelle la stratégie de la cravate, sans avoir effectivement à ouvrir le capot et à être comptable des réformes qui devront être faites.
Peut-être qu'ils s'adaptent, bon gré mal gré, à une situation qu'ils n'ont pas choisie, parce que quand même, ils n'avaient pas prévu d'arriver troisième dans cette législative, et encore moins d'être finalement relégués dans cette dynamique entre les deux tours, face finalement à une réaction de l'ensemble de leurs opposants politiques, mais aussi une réaction des électeurs, qui ont fait la démarche, notamment pour les électeurs du centre et de la droite, de voter pour des candidats. Et donc, on a même eu des électeurs du centre et de la droite qui ont voté assez abondamment pour des candidats de gauche, ce qui n'était pas du tout évident par rapport aux législatives de 2022 et par rapport aux enquêtes d'opinion. Donc, il y a quand même eu une réaction face au RN qui les amène à reculer en volume. Et on voit l'argument de Marine Le Pen qui est de dire on a eu la majorité des voix dans ce second tour, mais c'est parce que les candidats RN ne se sont pas désistés. Oui, ils étaient présents partout, ils ont mécaniquement davantage de voix, mais localement dans les circonscriptions, une par une, ils ont été régulièrement défaits. En revanche, cette défaite, souvent, elle est d'une marge qui est relativement fine. Une circonscription, c'est à peu près 60 000, 70 000 bulletins. Il y a rarement plus que 15 points d'écart entre les deux. Donc ça se joue à quelques milliers de voix, cette question de savoir comment est-ce que les choses retombent. Et donc le RN peut espérer continuer à progresser parce qu'il n'a pas encore refait un score aussi élevé qu'au deuxième tour de 2022.
Amandine Atalaya, on a décrypté par le menu la lettre du président, cet appel à bâtir une... à partir de la pluralité de l'Assemblée et de tenter de bâtir un compromis. C'est peu de dire qu'en l'état, les chances de succès ne sont pas évidentes. C'est une bonne nouvelle pour le Rassemblement national, ça. L'idée d'une forme de marasme qui pourrait presque conduire à un gouvernement technique.
Tout à fait. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour le Rassemblement national? Parce que le scénario... Alors, si c'est la gauche, c'est a priori parti de toute façon pour ne pas durer longtemps. Donc ça ne doit pas inquiéter beaucoup le Rassemblement national. Si c'est un gouvernement de coalition et que ça échoue, beaucoup disent, au regard de la Constitution, de la pratique, qu'on en viendrait in fine, après, on peut ajouter aussi un gouvernement technique, s'il échoue, la démission d'Emmanuel Macron. En situation de blocage absolu, il n'y a plus beaucoup d'autres issues. Et la démission d'Emmanuel Macron, c'est précisément ce dont rêve Marine Le Pen. Marine Le Pen, il y a quelques mois de ça, voulait à tout prix la dissolution. Bon, elle a eu de la dissolution qui n'a pas donné exactement les fruits espérés, à savoir le Rassemblement national ne gouverne pas. Mais sur les trois ans qui viennent, Marine Le Pen aimerait beaucoup, oui, qu'on en vienne au blocage absolu de l'Assemblée nationale. Et même cette période transitoire d'espèce de paralysie, confusion, sentiment de magouille, d'alliance des perdants, lui est évidemment favorable pour le moment.
Et je rappelle l'expression de Marine Le Pen qui dénonce un cirque indigne elle évoque la lettre du président de la République. Consigny, je parlais tout à l'heure de certains profils problématiques qui arrivent et qu'on a vu sur la photo dans le reportage il y a un instant. Vous voyez notamment Roger Chudeau, celui qui était fléché comme potentiel ministre de l'Éducation nationale, qui sur ce plateau avait tenu des propos expliquant que Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale socialiste, n'aurait pas dû être ministre du fait de sa binationalité. Condamnation unanime de la part du Rassemblement national. Lui-même ne dit pas qu'il regrette, mais dit que c'est sa position personnelle. Et il revient, sans problème, il est sur la photo.
Moi, je pense que ce genre de profil est en fait nécessaire au RN. Je pense qu'ils ont besoin d'envoyer certains messages à certains électeurs qui constituent un peu leur cœur de réacteur. Et donc, je pense qu'ils font d'une certaine manière exprès de rester dans l'ambiguïté. Donc, c'est pour ça que quelqu'un comme ce monsieur Chudeau peut rester député. Mais je suis pas surpris. Je pense que ça fait partie de leur stratégie.
Sur le rôle du Rassemblement national dans cet hémicycle si difficile à lire, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par Christophe Barbier sur le fait que, certes, ils ont dû subir un échec électoral, mais qu'à la fin, face à ce qui apparaît comme étant des tractations, ils pourraient tirer leur épingle du jeu. C'est d'ailleurs ce que dit Marine Le Pen. On va peut-être revoir sa réaction sur Twitter, qui est en deux temps. Dans un premier temps, elle dénonce un cirque qui devient indigne. Et puis, juste après, elle dit « penser aux Français ». Voilà, ça c'est le premier. Et on va voir dans un instant la seconde partie de sa réaction, où elle dit « et pendant ce temps, les factures de gaz et d'électricité flambent, les voyous œuvrent en toute tranquillité, l'immigration est toujours hors de contrôle, c'est vraiment dramatique ». Évidemment, c'est un petit peu démagogique,
non, mais
ça peut fonctionner comme argument.
Écoutez, tout ça me paraît quand même être un peu de la mousse. Je pense qu'en ce moment, tout le monde fait beaucoup de politique. Gérald Darmanin est lancé à pleine bourre pour essayer de mettre la main sur le camp macroniste. Marine Le Pen revient à ses fondamentaux, hein, finalement, qui lui réussissent. Je dis pas que c'est insincère, d'ailleurs, mais c'est de la politique, tout ça. Moi, je trouve surtout que Emmanuel Macron est dans une espèce de stratégie qui n'est pas forcément à la hauteur du moment. On voit bien qu'il essaye de finasser, qu'il dit « personne n'a gagné ». Alors c'est vrai, personne n'a de majorité absolue, ni même de majorité relative, mais il y en a qui sont arrivés en tête quand même. Enfin si, majorité relative, si, il y en a qui sont arrivés en tête. Donc je trouve que on peut pas, les macronistes ne peuvent pas nous expliquer finalement qu'ils font barrage à tout le monde sauf à eux. Il y a eu le barrage contre l'extrême droite, d'accord. Le barrage contre l'extrême gauche, ok. Là, j'ai vu que Darmanin mettait aussi là-dedans Madame Tondelier et Madame Rousseau. Bon, elles sont. Moi, je considère que c'est des fous furieux à gauche. Mais en l'occurrence, si on pense pas ça comme moi, de manière indifférenciée, on va pas nous expliquer que Tondelier ou Rousseau sont des dangers pour la République. Donc, je trouve que ils finassent un peu. Et pour moi, il y a une logique respectueuse de la démocratie qui est toute bête, hein, qui est de laisser la famille politique qui est arrivée en tête se débrouiller pour aller chercher d'éventuelles majorités pour faire passer ces lois. Donc je trouve qu'il devrait nommer effectivement un Premier ministre issu des rangs du Nouveau Front Populaire.
Quitte à ce qu'il soit renversé.
Quitte à ce qu'il se démerde ensuite avec la patate chaude.
Antoine Jardin, rapidement, parce que j'aimerais aussi qu'on parle de la question des dîners entre la majorité et certains membres du Rassemblement national, mais juste sur ces profils problématiques. Il y en a effectivement certains qui ont été écartés, certains ont perdu. Daniel Grenon, député sortant de Lyon, ne siégera pas. Mais on voit bien que certains sont encore là. C'est difficile d'aller jusqu'au bout de la logique d'écarter les profils les plus problématiques.
Je pense que ce n'est pas complètement souhaité. En fait, ce que le RN cherche à faire, c'est garder des profils problématiques qui sont impeccables dans leur communication et qui maîtrisent leur communication, comme a pu le faire historiquement Marine Le Pen, pour présenter un visage respectable tout en gardant des positions qui sont tout aussi dures et tout aussi clivées. Et donc, ce qu'on voit en réalité, c'est que le personnel politique dont dispose le RN, ses cadres, ses militants, ses dirigeants, eh bien, sont des gens qui partagent toujours les mêmes valeurs et qu'il y a une constante dans les mots d'ordre et dans la doctrine du Rassemblement national.
J'évoquais donc il y a un instant ces révélations de nos confrères de Libération sur des dîners entre Marine Le Pen, Jordan Bardella et des membres de la majorité. L'un de ces dîners a été confirmé par le principal intéressé, Édouard Philippe, qui a bien dîné avec Marine Le Pen. Écoutez ces quelques réactions.
C'est un peu dérangeant. Moi, je ne suis pas sectaire. Je parle avec mes adversaires, mais j'ai le sentiment que quand même, quand on va dîner avec quelqu'un, quand on partage le pain avec quelqu'un, c'est un peu qu'on est proche.
Édouard Philippe dîne à qui il souhaite. Moi, je n'aurais pas dîné avec Marine Le Pen, mais voilà.
Donc, lui, c'est lui, vous, c'est vous.
Non, mais moi j'aime beaucoup Édouard Philippe et voilà, je ne sais pas dans quelles conditions cela s'est passé.
Chez Thierry Solaire.
Voilà, bah, voilà, j'aime beaucoup Thierry Solaire également, mais moi je n'aurais pas dîné avec Mme Le Pen.
Vous n'auriez
pas.
Charles Consigny, c'est un problème de dîner avec Marine Le Pen ?
Écoutez, je ne pense pas, franchement. Je pense que ce qui compte quand même en politique, c'est ce qu'on dit, ce qu'on professe, les appels qu'on fait, les positions claires qu'on prend, et qu'après, la vie privée, la curiosité, le dialogue, c'est autre chose. Je pense que ce n'est pas très prudent de la part d'Edouard Philippe de faire ça. Lui, qu'on décrit toujours comme un sioux, n'a pas été très prudent là-dessus. Je pense qu'il n'a pas résisté à sa curiosité de dîner avec Marine Le Pen, parce que je pense que c'est une femme politique qui suscite beaucoup de curiosité chez ces hommes gonflés à la testostérone et qui viennent tous un peu des mêmes milieux et qui se ressemblent un peu tous. Donc je pense qu'il a été curieux de la connaître. Je ne pense pas que ça fasse d'Edouard Philippe, je ne sais quel hypocrite. J'ai entendu notamment à gauche des réactions très véhémentes. Une sénatrice qui s'appelle Madame Vogel, qui a fait un tweet, qui a fait un tweet comme si il était allé dîner chez Pétain et qu'il collaborait en coulisses. Il ne faut pas exagérer. J'aime bien, il y a quelqu'un qui a tweeté la formule de Debord. Je ne suis pas journaliste de gauche, je n'ai jamais dénoncé personne. Je pense que ce n'est pas la peine de faire la police des dîners. On se parle et il vaut mieux se parler que se foutre sur la gueule.
Malgré tout, Edouard Philippe, hier soir, chez nos confrères de TF1, semblait un peu gêné. Parce que Gilles Boulot l'a relancé en lui disant
Vous aviez
besoin de dîner pour constater les désaccords nombreux. Et bon, c'était un peu compliqué.
Rencontrer, se parler à la buvette de l'Assemblée ou dans un train pour le Parlement de Strasbourg, c'est courant et c'est la vie politique. C'est la forme du dîner qui est problématique. C'est trop convivial, nous dit Valérie Pécresse. Pourquoi avait-il besoin de dîner? Moi, je pense qu'il a voulu se trouver de chaque côté de la table dans la situation du débat d'entre-deux-tours de la présidentielle. Marine Le Pen à 2 mètres, lui, et voilà, argument contre argument, sujet par sujet. Je pense qu'il a voulu s'entraîner à ce que pourrait être le débat d'entre-deux-tours de la présidentielle.
Par ailleurs, d'où tenez-vous cette interprétation, Christophe Barbier?
Du mimétisme théâtral qui fait que quand vous avez une situation de fiction, d'entraînement, pourquoi les candidats s'entraînent au débat d'entre-deux-tours avec des amis qui leur servent de partenaires postiches, de sparring partners? C'est un peu pour ça. Créer la situation pour voir l'autre, l'animal. Vous voyez, on est à fleur et mouchetée, un jour on sera avec des vraies épées dans ce duel. Par ailleurs, n'oublions pas que c'est ce qu'a fait un certain François Mitterrand, qui rencontrait Jacques Chirac pour à la fois préparer la chute de Giscard et néanmoins sentir l'adversaire. C'est ce qu'a fait Jacques Chirac quand il est allé voir Jean-Marie Le Pen entre les deux tours de 88 pour voir si quelque chose était possible. Il en est sorti avec l'idée que rien n'était possible. Donc je pense que ces précédents ont fait sentir à Édouard Philippe que
c'est préjudiciable politiquement, Christophe ?
Oui, parce que ça trouble une image, parce qu'il aurait dû le dire à l'époque. Il est allé à la fête de l'UMA, rencontrer des communistes, des insoumis. Il l'a fait publiquement, il a débattu. Mais le faire nuitamment, en se cachant, en se faisant en plus piéger bêtement, parce que tous ces gens-là ont des voitures bruyantes la nuit, les voisins se mettent à la fenêtre et font des photos, c'était pas très adroit.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur ce plateau.